Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, Moria, camp de la honte sur l'île de Lesbos où des milliers de demandeurs d'asile survivent dans de redoutables conditions. Les deux tiers d'entre eux de confession musulmane ont tout de même fêté l'Aïd. Nous nous rendrons en Allemagne où près de 20 000 personnes qui se revendiquent de l'extrême droite et de groupes néo-nazis manifestent contre le port du masque. En Angleterre où les pilotes de British Airways acceptent des baisses de salaire temporaires pour limiter les licenciements programmés par la direction en raison de la crise sanitaire. À Khabarovsk, dans l'extrême-orient russe, nouvelle mobilisation contre l'arrestation du gouverneur régional. Commentaire dans ce journal d'Anna Colon Lebedev, spécialiste de la Russie post-soviétique. Sur l'île grecque de Lesbos, 16 000 réfugiés vivent dans des conditions de surpeuplement et de manque d'hygiène. Ce sont les termes de Médecins Sans Frontières, MSF, qui avant-hier a dû se résoudre à fermer le centre qui dessert le camp de Moria, centre d'isolement pour lutter contre le Covid-19 et l'ONG de prévenir que le système de santé publique de Lesbos serait incapable de gérer les ravages causés par une éruption de l'épidémie à Moria. Le confinement, qui plus est, vient d'être prolongé. Les deux tiers de ces demandeurs d'asile sont de confession musulmane. Comment, en pareilles circonstances, fêter l'Aïd? Angélique Cournis nous appelle d'Athènes.
Mahmoud Afghan était médecin dans son pays, dans le camp de Moria, où il attend depuis des mois une réponse à son dossier de demande d'asile. Il s'est transformé en cuisinier. Aujourd'hui, sa priorité est de faire en sorte que chacun puisse fêter l'Aïd correctement, malgré la prolongation du confinement. Joint par téléphone, il nous explique comment.
Nous essayons de faire de notre mieux. Nous faisons des gâteaux, des desserts, ce que l'on fait pour ces journées spéciales. On cuisine de l'agneau avec du riz et des douceurs. Et comme c'est la crise du coronavirus, on ne peut pas inviter les gens. On ne peut pas sortir à cause des mesures de confinement dans le camp. Alors on envoie les mets préparés dans les foyers. S'il n'y avait pas le coronavirus, j'inviterais tous ces gens chez moi. Là, j'envoie des paquets à ceux que je connais, mais aussi à des amis d'amis.
Pour les réfugiés, le confinement commencé en mars dernier se poursuivra au moins jusqu'à la fin du mois d'août. Cela rend les festivités de l'Aïd encore plus difficiles. Cette 7e prolongation du confinement est dénoncée par toutes les ONG comme injuste et raciste.
Les autorités hongkongaises, elles, ont ouvert ce samedi un hôpital de campagne de 500 lits au moment où la ville fait face à une nouvelle vague de contamination. Aux Philippines, 80 collectifs représentant 80 000 médecins et 1 million d'infirmières et d'infirmiers ont alerté le gouvernement. Selon ses soignants, le pays est en train de perdre la bataille contre le virus. Appel à l'aide, semble-t-il, entendu par la présidence. Loin de rencontrer de telles difficultés, le Rwanda enregistre de très bons résultats en matière de lutte contre le coronavirus. Aujourd'hui, en pleine pandémie, il est le seul pays d'Afrique subsaharienne à être inscrit sur la liste des pays considérés comme sûrs par l'Union européenne. Laure Broulard, jusque-là, Kigali, a réussi à contenir la maladie avec succès.
En 4 mois, le Rwanda a décuplé sa capacité de dépistage, passant de 300 à environ 5000 tests par jour. Alors que le pays rouvre ses frontières aériennes aujourd'hui, tout voyageur au départ ou à l'arrivée à Kigali devra se faire tester. Docteur Sabin Sanzimana, directeur du centre biomédical rwandais.
On voit les pays qui sont capables de tester beaucoup plus de gens ont pu gérer la pandémie beaucoup mieux que ceux qui ne peuvent pas. Et la technologie aussi nous a aidés. C'est un autre volet important où on investit beaucoup.
Les patients reçoivent généralement les résultats de leurs tests en 48 heures maximum par SMS. Des délais courts rendus possibles par une méthode appelée pool testing, efficace dans les zones à faible prévalence du virus. Docteur Léon Moutessa en charge des tests au sein de la cellule nationale de lutte contre la Covid-19.
We mix this sample before.
Nous mélangeons les échantillons de plusieurs personnes avant de les tester. Un groupe qui revient positif est ensuite retesté un par un. Pour les groupes négatifs, les résultats sont directement envoyés aux patients. Cela fait gagner du temps et réduit les coûts.
Selon l'OMS, le Rwanda a ainsi réussi à ralentir la propagation de la maladie, ce qui ne veut pas dire qu'elle est véritablement contenue. Le gouvernement a dû récemment reconfiner plusieurs quartiers de la capitale et les nouveaux cas augmentent au rythme de plusieurs dizaines par jour.
En Europe, confrontée à une hausse du nombre des cas, le gouvernement britannique met en pause le déconfinement et introduit de nouvelles restrictions dans certaines régions du nord de l'Angleterre particulièrement touchées. En Europe, les économies souffrent. En première ligne, les compagnies aériennes qui planifient quantité de suppressions de postes et British Airways n'y échappent pas. Plus inattendu, cette prise de position de ces pilotes qui ont approuvé un plan prévoyant des baisses de salaire temporaires de 20% pour limiter à 270 les licenciements secs. Élise Delève.
Oui, les membres du syndicat de pilotes ont voté massivement en faveur de ce plan, 85%. Une décision pragmatique, explique le secrétaire général du syndicat. Les pilotes baissent leur salaire de 20% tout de suite, ramené à 8% dans 2 ans. Ce plan permet de réduire le nombre de pilotes licenciés. British Airways avait prévu initialement de renvoyer 1255 pilotes. Grâce à la baisse de salaire décidée aujourd'hui, seuls 270 vont perdre leur emploi. Avec cet accord, les pilotes échappent également à la proposition controversée de British Airways, licencier massivement et réemployé petit à petit avec de moins bonnes conditions. La compagnie britannique ne prévoit pas de retour à la normale avant 2023. La filiale à laquelle elle appartient envisage de se séparer de 12 000 personnes, tous métiers confondus. Le secteur aérien est l'un des plus frappés par la crise du coronavirus. Les compagnies ont connu un arrêt brutal des déplacements pendant le confinement. Aujourd'hui encore, beaucoup préfèrent voyager par d'autres moyens que par l'avion et moins loin. Au Royaume-Uni, les concurrents de British Airways, Ryanair, EasyJet ou encore Virgin Atlantic sont aussi dans le rouge. 70 000 emplois sont menacés dans le secteur aérien britannique dans les 3 mois à venir.
En Allemagne, le tableau de bord est moins inquiétant qu'ailleurs s'agissant du nombre de victimes du Covid. Et pourtant, les mesures et précautions prises par les autorités sont la cible de l'extrême droite, des néo-nazis et de leurs sécrétions conspirationnistes. Cet après-midi à Berlin, plusieurs milliers de manifestants ont répondu à l'appel d'une mobilisation dont l'intitulé n'est autre que le titre d'un film de la réalisatrice du Reich, Leni Riefenstahl. Romain Chevalier est à Berlin.
La journée de la liberté, c'est ainsi que les organisateurs ont nommé cette gigantesque manifestation. Au total, 17 000 personnes défilent actuellement dans les rues de Berlin. Tous réclament la même chose, la fin de la distanciation sociale et surtout l'arrêt du port du masque. Dans le cortège, les manifestants perçoivent cette protection du visage comme un signe de soumission, semblable à une muselière. Sur les pancartes, les écriteaux vont dans le même sens. On peut notamment lire « Ça suffit, trop c'est trop », mais aussi « Réveillez-vous et enlevez votre masque ». D'ailleurs, dans ce rassemblement, toutes les mesures de protection dénoncées ne sont pas respectées. Les anti-corona ont même réclamé aux quelques porteurs de masques de les retirer immédiatement. De son côté, la police a annoncé avoir déposé plainte contre les organisateurs pour non-respect de ces règles d'hygiène. Cette manifestation, censée fêter la fin de la pandémie, apparaît comme un paradoxe. Si l'Allemagne a jusqu'à présent été plutôt épargnée par le virus, depuis plusieurs jours, le nombre de contaminés repart à la hausse. Plus 955 cas aujourd'hui, une augmentation que le pays n'avait plus connue depuis début mai.
Cette manifestation ne laisse pas indifférents les soignants car elle peut conduire à une relâche dangereuse. Et au moment où en France, les préfets rendent obligatoire le port du masque dans certaines parties de l'espace public, Jérôme Marty, médecin, membre de l'Union française pour une médecine libre, a tenu à réagir.
Ça me rend triste surtout, et puis avec quand même un peu de colère parce que on se bat contre un virus, malheureusement, qui est encore là parmi nous pendant quelques mois. Et donc la seule parade aujourd'hui, c'est le masque. Si vous voulez, moi je suis médecin, donc je suis pas là pour juger les comportements d'intelligence ou non. Je crois que ça participe d'une incompréhension, parce que si on a encore des milliers de gens qui n'ont pas compris et qui pensent que il y a un complot là-dessous ou qu'on veut leur faire porter pour diminuer leur liberté, c'est qu'on n'a pas été bon dans les explications. Donc il faut toujours réexpliquer pour arriver à avoir une acceptation de ce masque qui fait partie des choses. Enfin, de l'organisation de nos vies, c'est comme ça. Quand on a eu malheureusement l'épidémie de sida, on a tous changé nos vies, on a porté le préservatif. Et bien là, on doit porter le masque.
Des propos recueillis par Cécilia Arbona. À partir de lundi, le port du masque devient obligatoire, quel que soit le quartier, dans 69 communes de Mayenne. Détermination intacte à Khabarovsk, ville de l'extrême-orient russe, à 6000 km de Moscou. L'arrestation le 9 juillet dernier du gouverneur régional, Sergueï Fourgal, ne passe pas. Accusé de meurtre commis 15 ans auparavant, l'homme très populaire était envoyé à Moscou pour y être jugé, double affront pour ses soutiens mobilisés depuis 3 semaines, aurait-il commis le crime de lèse-majesté de battre en 2018 un candidat de Russie unie? Comment comprendre l'ampleur et la persistance de ces manifestations? Nabila Hamel a posé la question à Anna Collin-Lebedeff, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre et spécialiste de la Russie post-soviétique.
Il y a un prétexte aux mobilisations qui est l'arrestation du gouverneur de la région et son remplacement, mais il y a également un contexte en fait qui explique beaucoup plus largement pourquoi est-ce qu'on est en présence d'une mobilisation qui, loin de Moscou, gonfle et prend de l'ampleur. Avec le sentiment qu'en fait les préoccupations moscovites ne rejoignent pas forcément les intérêts des habitants locaux. Le gouverneur qui est incriminé et accusé de meurtre est un politicien qui a été parachuté dans la région, mais qui a joué un jeu politique très local en faisant des choses pour la région. Et donc, les habitants locaux ont la sensation qu'on leur enlève, Moscou leur enlève un gouverneur qui se préoccupait des citoyens pour le remplacer par quelqu'un dont les allégeances et les intérêts sont davantage à Moscou. Donc ça, c'est le point de départ. Mais bien évidemment, il y a tout le contexte d'une insatisfaction croissante de cette région vis-à-vis de la politique que la capitale leur impose. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a véritablement une combinaison de revendications locales, de gestion politique de la région, de préoccupations pour les citoyens et de revendications plus nationales. Alors certaines vont être très ouvertement anti-poutiniennes, d'autres vont par exemple critiquer les médias et la manière dont les médias couvrent aujourd'hui l'actualité des villes russes. Donc on a l'impression qu'en fait à Khabarovsk, très très loin de Moscou, il y a cette insatisfaction qui gronde dans plusieurs villes de Russie en ce moment, arrive à se cristalliser parce qu'il y a eu ce déclenchement, ce coup d'éclat de remplacement d'un gouverneur qui était aimé par la population.
Anna Collin-Lebedeff, spécialiste de la Russie post-soviétique. La République islamique d'Iran a annoncé aujourd'hui avoir arrêté le chef d'un groupe terroriste basé aux États-Unis. Jamshid Charmad, leader du groupe Tondar, tonnerre en persan, serait le responsable d'un attentat contre une mosquée dans la ville de Shiraz, dans le sud-ouest du pays en 2008, qui avait fait 14 morts et des centaines de blessés. Ce groupe monarchiste est opposé au régime. Les services de renseignement iraniens, ce n'est pas une surprise, n'ont pas livré de détails quant aux circonstances de cette arrestation. Azadeh Khan est professeur de sociologie politique à l'Université de Paris et spécialiste de l'Iran.
On n'a pas d'informations quant au lieu de son arrestation. Il n'a pas été arrêté à Los Angeles quand même. Visiblement, il a été emmené soit en Turquie, soit en Irak, soit, je ne sais pas, dans l'un des pays limitrophes de l'Iran, et arrêté là-bas et emmené en Iran.
Téhéran n'a pas donné plus de détails sur cela. Selon vous, comment interpréter l'annonce de cette arrestation?
C'est un groupe assez méconnu, si vous voulez, ce groupe Tondar. Je ne suis même pas sûre si les Iraniens de l'Iran les connaissent. Mais il faut placer tout ça dans le contexte actuel d'une crise économique très grave et associée à la crise de Corona qui a été très mal gérée en Iran, le mécontentement de plus en plus grand de la population iranienne et de la société iranienne. C'est dans ce contexte que le régime tente par tous les moyens d'imposer sa mainmise sur la société. On constate que de nombreux militants et militantes de la société civile se trouvent emprisonnés en Iran et donc l'arrestation du porte-parole de ce groupe monarchiste peut avoir des retentissements actuellement dans la mesure où on entend dire que la population tend à comparer la situation actuelle de l'Iran avec l'époque du Shah d'Iran et donc le nombre des personnes qui se disent aujourd'hui pro-régime du Shah visiblement augmente dans ce pays faute d'alternatives politiques.
Azadeh Khan répondait au micro de Cosima Mezidi Alem. Taille 23 km, poids 11 milliards de tonnes. Signe particulier pourrait disparaître totalement avant la fin du siècle. En Suisse, le plus grand glacier des Alpes n'en finit pas de fondre. Le glacier d'Aletsch dans le canton du Valais a déjà reculé de 2,5 km depuis l'ère pré-industrielle. C'est un reportage signé Jérémy Lanche.
Il n'y a pas de crevasses,
Oh, presque.
Il y en a quelques-unes.
Marcher sur un glacier est toujours un peu périlleux, surtout quand celui-ci est en voie de disparition. En 10 ans, celui d'Aletsch a perdu 1 km3 de glace. Mathias Huss est glaciologue à l'université de Fribourg. Il est venu mesurer l'état de la fonte depuis le début de l'été.
On a planté cette balise il y a 6 semaines. Et quand je suis retourné ici, j'étais vraiment surpris. Parce qu'on a perdu presque 3 mètres de glace, 50 cm par semaine. C'est vraiment impressionnant la quantité de glace qui est perdue.
D'après le chercheur, chercheurs, si rien n'est fait pour contenir le réchauffement climatique, le glacier d'Aletsch pourrait bien disparaître totalement d'ici 2100, comme 90% du volume de tous les glaciers alpins.
Les glaciers sont importants pour l'eau potable, pour l'eau d'irrigation, pour hydroélectricité. En été, l'eau de Rhône est composée de jusqu'à un quart de la fonte des glaciers. On peut vraiment avoir une conséquence sur l'eau jusqu'à la Méditerranée.
Et c'est pour tenter de sauver ce qu'il reste des glaciers que des militants ont demandé que la Suisse atteigne la neutralité carbone d'ici 2050. L'initiative pour les glaciers, c'est son nom, doit maintenant être soumise au vote de la population.
Quelques mots de météo pour refermer cette édition. 5 départements placés en vigilance orange pour risque d'orage. Il s'agit de la Loire, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche et du Rhône. Météo France maintient par ailleurs la vigilance orange pour canicule pour 13 départements de l'Est. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue à la technique, Florent Bujon.